Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint.
Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous. Entre les larmes et le rire, le nouveau livre de mon invité aujourd'hui bouscule notre lecture et notre humanité. Les larmes parce que l'écrivaine y raconte des scènes de racisme quotidien subies en France mais aussi aux États-Unis, voire en Australie où elle vit en partie. Mais aussi le rire, car avec un humour féroce, elle saisit tout le ridicule, la bêtise de celles et ceux qui, ne voyant que sa peau noire, se permettent des réflexions xénophobes, racistes et sexistes. Un récit édifiant qui vient de paraître sous le titre « Expat Blues » aux éditions Project Hill, où surtout se révèle une autrice qui, pour la première fois, a choisi le français comme langue d'écriture. Bonjour Lucie Mouchita.
Bonjour Catherine, merci pour l'invitation.
Avec grand plaisir. Qu'est-ce qui a déclenché la naissance de ce livre ? La colère, la lassitude, l'envie de faire réfléchir sur l'importance et la portée des mots ?
En fait, ce livre date depuis des années et des années. Parce que de temps en temps, il y a des choses qui t'arrivent, des choses qu'on te dit. Et puis, il y avait des choses que j'ai comprenais 2 années après. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, sur le coup, tu dis non, c'est pas vrai. J'ai mal compris. Et puis, 2 années après, on comprend. Ou il y a des choses qui font mal. Mais 6 mois après, on est morte de rire. Parce que c'est du Shakespeare. C'est pas possible. Si je le dis, personne ne va jamais me croire. Donc, de temps en temps, j'ai écrit ça, mais en anglais. En même temps, il y a des phrases françaises qui se traduisent pas vraiment bien, que je me disais toujours, ça sera tellement bien d'écrire ça en français, parce que c'était du parler. En même temps, je me disais, je ne peux pas. Donc, il y avait beaucoup de choses que j'avais écrites à travers les années que je mettais de côté, et c'était une thérapie. Donc, je me suis dit, je ne peux pas écrire quelque chose d'intellectuel en français, je suis nulle. Mais chaque jour, je vais écrire une anecdote. C'est comme ça que Expat Blues est né.
On va reparler de cette question de l'écriture et du choix de la langue française, puisque ce n'est pas votre langue maternelle. Revenons à ce récit. Donc, sur une 30aine d'années, en effet, depuis votre arrivée en France en 1986-87.
86, oui.
Ce sont 35 scènes, 35 tableaux où vous racontez comment vous vous heurtez aux stéréotypes de la part de toutes sortes de personnes qui, en vous voyant, vous prennent soit pour une femme de ménage, soit pour la nounou, qui s'étonne que vous voyagez en business class, qui vous apostrophe dans la rue, pire, une femme vous frappe avec son sac, des gens qui vous rappellent que la France ce n'est pas l'Afrique, et sans oublier le corps médical qui vous maltraite aussi dans la clinique à Nancy où vous accouchez. Comment est-ce que vous faites et comment est-ce que vous avez fait, Lucie Mouchita, pour garder votre calme face à ces comportements inacceptables ?
Je ne sais pas, c'est moi. Mais je suis née dans la Rhodésie, le Zimbabwe d'aujourd'hui, pendant l'apartheid. Et là, on était classés en 4 races, le blond, l'asiatique, la métisse et le noir tout en bas. Donc, j'ai grandi dans ce pays, en Afrique, donc il fallait faire face à ça. Et j'ai grandi avec les parents, les grands-parents qui trouvaient du mur dans des situations que, quand je suis devenue adulte, que je me disais, mais c'était pas drôle du tout. Mais on riait. Et mon père nous racontait des histoires racistes parce qu'il a fait toutes sortes de travail. Mais on se moquait des blancs. Mon père, il était clown, il se moquait de l'accent, il se moquait de... Donc, on transformait chaque cas, on le transformait en une pièce de théâtre. Et on rigolait. Mais je ne savais pas que c'était pas normal. C'est des choses, on parlait pas vraiment. Donc, on fait avec. On est dans une situation, il faut essayer de s'en sortir vivant.
Donc, vous aviez déjà cette expérience du racisme, mais j'imagine que quand vous êtes arrivée en France avec votre époux, avec une formation universitaire, est-ce que vous aviez l'espoir que ce pays des droits de l'homme soit moins raciste? Et ça n'a pas été le cas, vous avez dû être déçue.
Elle était moins raciste. Et c'est ça aussi que je dois dire, parce que moi, j'ai dit bac d'un pays où, dans un parc, tu ne pouvais pas aller s'asseoir sur un banc, c'est marqué « European only ». Partout, tu ne pouvais pas y aller. Donc, ce n'était même pas caché. En même temps, c'était beaucoup plus facile à négocier. Parce qu'on savait, on n'a pas le droit de faire ça. Là, j'aurais des problèmes. J'arrive en France, je ne parle pas la langue. Et puis, j'arrive dans un milieu plutôt intellectuel, plutôt des gens qui avaient voyagé, qui avaient vécu dans des autres pays, qui étaient curieux de l'autre. Donc, pour moi, c'était ça la France. Les enfants commençaient à aller à l'école, donc j'ai commencé à me mélanger avec d'autres personnes qui faisaient partie de mon milieu. Et là, c'est là que tu commences, non, non, il n'a pas dit ça, j'ai mal compris, ou tu rentres chez toi, tu regardes dans le dictionnaire. C'est vraiment, c'est ça, parce que pour moi, la France n'était pas raciste, c'était intellectuel, les gens éduqués, je pouvais discuter avec des gens avec qui je n'étais pas d'accord, mais on discutait. Et plus que j'ai appris le français, plus que j'ai compris. Mais au début, je crois que peut-être je ne voulais pas non plus comprendre ça.
Alors, c'est vrai que ce qui vous fait défaut au début, Lucie Mouchita, c'est qu'en effet, vous n'avez pas encore fait l'apprentissage du français qui vous permettra plus tard de mieux vous défendre. Mais parce que vous racontez aussi que c'est une langue que vous ne vouliez pas apprendre quand vous étiez enfant au Zimbabwe. Pourquoi ?
Parce qu'on était colonisés par les Anglais. Pour les Anglais, la première langue étrangère, c'est le français. Mais dans le monde anglophone, en Australie, partout, ils ont colonisé. Si on était très fort, on faisait latin et français. Et moi qui arrive, qui dis, mais ça va pas, non? Il parle le latin pour faire quoi? Moi, je suis une maline, je ne veux pas de français. Donc, et là, c'est moi qui s'est trouvé ici. Donc, je fais, je ne sais pas, 4 semaines ou 6 semaines à l'Alliance française et à l'arrêt avant de venir ici. Mais bon, j'arrive, je savais dire, je m'appelais Lucie, j'ai 25 ans, je suis comptable. Mais ça ne me donnait pas de l'eau, ça ne me montrait pas où étaient les WC. Donc, c'était complètement nul. J'ai compris que le français que j'avais fait, ce n'était pas du tout utile pour moi.
Bon, c'est plus tard que ça l'est devenu. Ouais. Alors, c'est vrai que vous racontez aussi qu'aux États-Unis, où vous allez vivre avec votre famille dans les années 90, ce n'est pas beaucoup mieux. C'est même une forme de racisme plus pernicieux, plus hypocrite.
Oh non, non, c'était plus violent.
C'était plus violent.
Oh ouais, ouais, il y a des choses que je n'ai pas écrites. Moi, j'ai écrit des choses qui me font rire, mais il y a des choses... Je crois que 3 fois, on a eu peur qu'on allait nous tuer. Et donc, nous, aux États-Unis, ce n'est pas drôle du tout. Hein. Quand on vous chasse sur l'autoroute avec une voiture, on essaie de vous faire sortir de la route. Et on a des enfants derrière, ou aussi un mec qui a un revolver, parce qu'on avait dormi dans un camping. Et une personne qui dit, je ne vais pas ici, je vais les tirer dessus. Et moi, je n'ai pas du tout compris que c'était nous, jusqu'à le lendemain.
En tout cas, quand vous revenez en France, bon, les quiproquos continuent. Mais en fait, ce qu'il y a de terrible aussi, quand on vous lit, Lucie Mouchita, c'est l'attitude des témoins de cette scène. Les personnes autour de vous, soit ils baissent la tête, ils ne disent rien, ils s'en vont, ils n'interviennent pas. Est-ce que ça aussi, c'est un problème ou pas ?
Oui, c'est un problème. Mais en même temps, moi, j'essaie toujours à me mettre à la place de l'autre. Parce que de temps en temps, moi, je ne répondais pas aussi parce que déjà, je me dis, oh, il n'a pas dit ça. Et des fois, c'est une question de 2 secondes, il est trop tard. Et des fois, je ne disais rien parce que c'est la copine de la copine d'une copine. Ou parce qu'on est chez le grand-parent de la copine d'une copine ou d'un collègue de travail. Et puis, partout, il y a le tonton un peu con-con. Et tout le monde le sait. Et comme je le dis des fois, on va te dire, Attention, tonton, il va te dire des bêtises. Il voit des femmes, il va te dire des blagues. T'en fais pas. Mais des fois, on te dit pas parce que les gens ne savent pas que tonton il est raciste. Pourquoi? Parce que on n'a jamais eu un noir ou une noire chez nous. C'est la première fois et tonton arrive. Tout le monde se regarde avec les yeux écarquillés. On ne sait pas trop quoi dire ou on a peur de dire quelque chose parce que. Des fois, moi, j'ai déjà dit quelque chose et la justification est pire. Donc, quand on n'a pas le temps, l'énergie, des fois, il faut laisser passer.
Mais l'entourage, alors ?
L'entourage est comme moi. Parce que des fois, j'avais des amis qui venaient me dire « Écoutez, excusez-moi, mais je ne savais pas, ils ne savaient pas quoi faire. Il t'a dit ça, mais j'ai honte. » Ou j'ai eu des gens qui pleuraient pour dire « Oh là là, je ne savais pas, excusez-moi, en plus c'est moi qui t'ai invité. » Je sais pas. Tu ne vas pas quand même pleurer pour ça. Ce n'est pas toi. Parce que pour moi, je me dis, c'est un manque d'éducation et puis... La littérature française sur l'Afrique était écrite quand même par des Français, des hommes en général, des colons. Et c'est cette image-là. Aujourd'hui, je continue à ne pas comprendre ce que ça veut dire quand on dit la grandeur de la France. C'est une phrase qui fait bizarre où en Angleterre, on donne toujours l'ordre de l'Empire. Il n'y a plus d'empire, mais on continue à donner des gens l'ordre de l'empire. Mmh. OK. Mais en même temps, je crois que c'est les gens qui vivent ici. C'est quelque chose qui a toujours été là. On ne se pose pas de questions. Comme quand on quitte son pays, on voit autre chose. On revient, on commence à voir des choses bizarres chez soi qu'on ne voyait pas. Parce que ça allait de soi.
Oui, donc c'est beaucoup d'ignorance, un manque d'éducation, un manque de visibilité aussi.
Manque de visibilité, un manque de curiosité, parce que là, en Australie, mon livre Chinongo a été publié en 2023. Voilà. Et j'ai été interviewée et on m'a dit que c'est la première fois qu'on a interviewé une Africaine.
En Australie?
Oui, je ne suis pas tombée de ma chaise, mais j'ai failli.
Mais je comprends.
Donc, c'est ça que j'essaie de dire. L'image de l'Afrique, c'est l'image qu'ils ont fait eux-mêmes.
Absolument. Une image qui a été forgée par les Blancs eux-mêmes.
Voilà.
De ça, on va reparler. Pour l'instant, je vous propose, Lucie Muchita, de faire une petite pause musicale dans notre entretien. Il se trouve que vous citez quelques titres. Il y a Leonard Cohen, Everybody Knows. Il y a aussi Everly Brothers, Bye Bye Happiness. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on écoute avec nos auditrices et nos auditeurs maintenant sur RFI ?
On va y aller avec Leonard Cohen.
Leonard Cohen, c'est parti.
Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de l'écrivaine Lucie Mouchita qui publie Expat Blues aux éditions Projectile, un récit en français, en fragments, des scènes de vie quotidienne où l'écrivaine a été percutée par des paroles ou des attitudes racistes qui nous laissent sans voix. Heureusement, Lucie Mouchita a de la répartie, comme en témoigne cet extrait où vous racontez comment l'un de vos étudiants français, un adulte, est persuadé que vous avez été mutilé. Et voici votre réponse. Nous sommes page 158. Je suis tellement abasourdi que je ne trouve pas ma cervelle tout de suite. Je cherche des mots à la fois diplomatiques, à la fois percutants pour expliquer à mon cher client étudiant en anglais qu'une femme africaine n'est pas une représentante de toutes les femmes africaines, que l'Afrique contient 54 pays, qu'une Sud-Africaine n'est pas une Soudanaise, juste comme une Allemande n'est pas une Portugaise, qu'une Russe n'est pas une Écossaise, ni la Slovène, une Française. Mais comme je ne trouve pas les mots qu'il faut, monsieur conclut que mon silence doit être un aveu de mutilation génitale. Fermez les guillemets. Je trouve que c'est une scène clé qui dit toute l'ignorance des gens que vous rencontrez, l'ignorance, la méconnaissance qui sont le lot des Occidentaux, mais aussi quand ils vont sur le continent africain. Par exemple, cette scène que vous racontez quand vous êtes très jeune. Vous rencontrez en 1980, au moment où la Rhodésie devient le Zimbabwe, une journaliste qui veut absolument rencontrer des pauvres
oui.
et qui vous dit que vous n'êtes pas africaine.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ah, non, il n'y en a pas qu'à elle. Hein. J'ai déjà eu ça en France. Et c'est un compliment. Ça doit être un compliment. Et ce n'est pas des gens qui sont méchants. Et donc, elle voulait bidonville, aller au bidonville. Moi, je ne savais même pas qu'est-ce que c'était, donc j'ai cherché dans un dictionnaire. Donc, je ne connais pas, mais elle était désespérée. Et là, tu dis, est-ce que je vais le faire ? Écoute, tu vas te faire foutre. Où j'ai vu, en Afrique et au Zimbabwe, des journalistes qui disaient, parce que des gens sont habillés normalement, ah, est-ce qu'on ne peut pas les habiller ? Les garçons, on peut enlever les chemises pour prendre une photo qui fait pauvre. Parce que l'Afrique, c'est pauvre. Il faut en rire.
Et c'est exactement ce que vous dites en réponse. Tout photographe africain pourrait, si on lui accorde un visa, bien sûr.
Bien sûr, parce que le visa...
Venir en France et photographier des mendiants à Paris, des SDF qui dorment sur les trottoirs dans les beaux quartiers ou sous les ponts de Seine, des drogués, des files d'attente au Resto du Cœur, des HLM sans ascenseur depuis 6 mois, des immeubles qui s'effondrent et tuent des résidents à Marseille et dans d'autres villes, des lycées et facultés insalubres avec des toilettes qui ne fonctionnent plus, des rats dans des couloirs, de l'eau de pluie tombant dans des seaux à l'intérieur de salle de classe. Fermez les guillemets. Alors, il y a la question aussi très importante dans votre livre, Lucie Mouchita, des traces du racisme en France. Par exemple, ce dessert appelé tête de nègre.
Oh là là, oui.
Qui, heureusement, n'existe plus, mais dont vous faites l'expérience à Nancy, justement, parce que
oui,
c'est une des spécialités.
À Nancy, ça n'existe plus, mais on a le cas. C'était dans le sud, qui passe à Grasse, ou je ne sais plus quelle ville, il y a 3 ou 4 ans.
Il y a encore des têtes de nègre.
Oh oui. Et ça, c'est du riche. C'est là que je dis, je ne vais pas respecter, moi. Parce que je me dis, si quelqu'un a envie de manger des friandises, en tête des Africains ou des petits-enfants africains, allez-y. Mais le jour que cette personne dira, peut-être pas, ça va me restreindre, je dis, on aurait fait du progrès.
Oui.
Et quand je suis arrivée à Nancy, on m'avait dit, on va aller en ville, c'est une dame noire qui m'a dit, on va protester contre. J'ai donné une excuse bidon, je ne pouvais pas, je n'étais pas là. Mais je me suis dit, le jour que Nancy, j'irai plus dans la boulangerie et voir des têtes de nègres, on aurait fait du progrès. Et maintenant, il n'y en a plus.
Donc vous ne voulez pas protester, vous voulez que ce soit une prise de conscience de l'autre.
Exactement.
Je suis d'accord.
Exactement. C'est pour ça, à Nancy, quand j'étais prof, les étudiants que j'avais, au début, quand j'ai commencé, il y avait, les étudiants étaient pratiquement tous blancs. Et petit à petit, ça se mélange, beaucoup des Asiatiques, beaucoup de... Et ces enfants-là me donnent de l'espoir. Je ne le vois pas du tout, mais pas du tout manger des petits nègres. Ils auront honte. Donc, pour moi, c'est aussi un signe que l'humanité fait du progrès. Cette jeunesse-là qui voyage, parce qu'ils vont en vacances, et puis ils ont des amis qui viennent d'autre part. Donc, l'image n'est plus du tout l'image colonialiste. C'est complètement différent.
Néanmoins, il y a aussi cette scène, vous passez devant un magasin à Paris avec une de vos amies. Et là, il y a une fresque sur le mur qui représente une scène d'esclavagisme.
Il est toujours.
Et avec votre amie, vous avez ce débat qui est très intéressant. Faut-il laisser cette représentation pour rappeler que ça existait ? Ça, c'est ce que dit votre amie. Ou faut-il la mettre dans un musée ? C'est ce que vous dites, vous. Parce que dans un musée, la trace existe toujours. On peut contextualiser. Et en plus, ça peut exprimer le ressenti que vous avez quand tous les jours vous passez devant cette fresque. Je dis tous les jours, c'est une façon de parler.
Oui. Chaque fois que je passe, je ne le regarde pas. C'est la rue de Montorgueil. J'adore cette rue. Mais je crois que mon attitude, c'est un petit peu comme les têtes des nègres. Je me dis, il arrivera un jour que peut-être on aura tous honte d'avoir ça.
Revenons à vous comme écrivaine, Lucie Mushita. Est-ce que Doris Lessing, que vous citez ici, qui est cette écrivaine britannique qui a été sacrée par le prix Nobel de littérature, qui est née en Iran et qui a vécu en Rhodésie du Sud, a été une source d'inspiration pour vous, par exemple ?
C'était la première écrivain que j'ai lue qui parlait de mon pays. That the grass is singing, je ne sais pas le titre en français. Je n'ai pas tout compris parce qu'elle était bannie. Hein. Donc, on n'avait pas le droit de lire ses livres. Donc, je rigole avec les enfants d'aujourd'hui que nous, il y avait tellement des écrivains qu'on n'avait pas le droit de lire. On se passait ses livres comme on se passe les joints aujourd'hui. Et des fois, les 10 premières pages avaient disparu, les 30 dernières étaient disparues. Donc, de temps en temps, tu sais comment ça finit. Donc, quand j'ai lu Doris Lessing, le printemps était vraiment le printemps. Donc, septembre, octobre, novembre. Et l'été, c'était vraiment l'été qu'il faisait chaud. Et là, je suis tombée de nu parce que, ah bon, la littérature pouvait parler de ton propre pays. Et ça peut être écrit par quelqu'un qui est vivant. Pour moi, la littérature, c'était écrit par des gens morts et c'était des Anglais. Même quand je lisais des Français, je ne savais pas que c'était des Français pour moi parce que c'était écrit en anglais.
Qui, par exemple, vous lisiez en anglais ?
Around the World in 80 Days.
Jules Verne. Le Tour du Monde en 80 jours.
Oui. Donc, on a lu ça et puis Guy de Maupassant, Zola, mais je ne savais pas que c'était des Français.
En 2008, vous avez écrit votre premier roman, Chinangwa, qui a été traduit en français en 2012. C'est l'histoire d'une petite fille au Zimbabwe et qui se déroule là où vous avez grandi.
Oui, dans le village où j'ai grandi.
Mais quel est votre lien avec votre pays natal aujourd'hui, Lucie Mushita ?
J'y vais, mais depuis que ma maman est décédée en 2013, ça m'a pris encore 3 ans pour y aller. Parce que j'ai compris que quand j'allais chez moi, c'était pour aller voir ma maman. Et mes frères et sœurs, ils peuvent venir ici et tout ça. Et puis les enfants sont maintenant grands, ils partent. C'est très bizarre de retourner. Et puis, j'ai vécu beaucoup plus en dehors du Zimbabwe, qui est au Zimbabwe. Des fois, j'ai l'impression que le pays que j'ai quitté, il est toujours là physiquement. Mais intellectuellement, il n'existe plus. Donc, il y a une espèce de décalage. Et même ma langue maternelle, le Shona, il faut que je cherche les mots. Parce que ça fait presque 40 ans que je ne le parle pas. Donc, j'ai honte quand j'ai d'autres personnes qui ne sont pas de la famille, qui parlent en Shona. Parce qu'avant, quand ma maman était vivante, au bout d'une semaine, elle me remettait dans le bon droit. Et là, ça fait depuis qu'elle est décédée, ça fait plus que 10 ans que je n'ai pas parlé du bon Shona.
Puisqu'on parle de langue, vous avez donc décidé d'écrire ce livre en français. Qu'est-ce qui vous a donné envie de passer à l'acte ?
Parce que, par exemple, quand je dis rien. Comment est-ce que je peux le dire en anglais ? Parce que j'ai écrit, c'est des petites scénettes. C'est des pièces de théâtre, en général, c'est du tac au tac. Et le tac au tac, ça ne passe pas en anglais. Ou ça passe, mais le parfum n'y est plus. Donc, il fallait que ça soit en français. Et la nourriture en France, le fromage que tu achètes, quand tu dis entre le camembert et, je ne sais pas, le fromage noble, je crois qu'il n'y a que des Français qui peuvent le comprendre.
Ça, c'est une scène, en effet, chez la fromagère.
Chez la fromagère.
Qui... Donc, c'est parce que ces scènes ont été vécues en France et en français que
oui.
Vous avez écrit en français.
J'ai écrit en français et je crois que ça sera perdu parce que si on n'a pas tous ces 10 000 fromages ou la différence entre... Je sais que ça peut être traduit, mais dans le monde anglophone où on n'a pas autant de fromages, de faire comprendre la différence entre le fromage que je voulais acheter et le fromage qu'elle voulait que j'achète. Donc, c'est très franchouillard, je crois.
C'est très franchouillard.
Ah, franchouillard. Même le thème franchouillard, comment est-ce que je peux le traduire?
Est-ce que c'était aussi une façon, peut-être, en écrivant en français, de vous adresser directement à ces personnes qui vous avaient stigmatisé pour être vraiment sur le même plan? Tu m'as dit ça, voilà ce que je te réponds.
Je crois que c'est plutôt pour dire, quand on me dit ça, c'est comme ça que je le sens. Si j'ai écrit ce livre, c'est pour dire, si on dit ça, il y a un effet, peut-être vous ne le voyez pas. Et puis aussi, arrêtez, réfléchissons. Si vous voyez cette personne ici, ne dites pas qu'est-ce qu'il fait ici. Demandez-vous comment il était arrivé là. Parce que, comme ma fille dit toujours, there's always an explanation.
Il y a toujours une explication.
Il y a toujours une explication. Comme vous voyez, je ne sais pas, un kangourou au milieu de Paris, il y a une explication. Il n'est pas tombé du ciel. Et vous suivez le chemin par où il venait, vous aurez une explication. Si on suit bien le chemin, pourquoi il y a des Africains ici? Réfléchissons. Avant de condamner, prenez le temps de dire pourquoi la rivière a changé de route. Pourquoi il pleut aujourd'hui? Pourquoi il y a la neige dans la montagne? Il y a toujours une explication. Et n'oubliez aussi pas que ce qu'on a fait chez nous, on nous a pris la terre, on nous a mis des lignes imaginaires entre les gens. Moi, mon grand-père maternel, il était pris à 14 ans. Il avait disparu et il est revenu un jour. On se moquait de lui parce qu'il avait tellement peur des Blancs. Et j'ai su bien après, peut-être même il y a que 20 ans, qu'il avait été pris quand il était jeune. Il n'a jamais dit exactement qu'est-ce qu'on lui a fait, mais il ne marchait pas droit. Donc, il faut aussi réfléchir à ça avant qu'on condamne. Et aujourd'hui, la colonisation physique, peut-être géographique, est finie, mais la colonisation économique n'est pas finie.
Il y a encore beaucoup de choses à faire. Hein.
Ouh là là! C'est pour ça qu'il faut rire de temps en temps, parce que si on ne rit pas, on va pleurer. Il ne faut pas pleurer.
Et voilà comment la boucle est bouclée. Merci beaucoup.
Merci à vous, Catherine.
Mouchita. Je rappelle le titre de ce livre, Expat Blues, qui a été publié aux éditions Projectile.
Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon.